Chapitre 21. Question. Je ne veux pas que tu partes. Réponse. Je ne m'en vais nulle part. Je suis toujours avec toi, de toutes les façons. Question. S'il te plaît, avant d'arrêter, juste quelques autres questions. Quelques questions finales pour conclure. Réponse. Tu comprends, n'est-ce pas, que tu peux te tourner vers l'intérieur, n'importe quand, retourner au siège de l'éternelle sagesse et y trouver tes réponses? Question. Oui, je comprends et je suis reconnaissant du fond du cœur que ce soit ainsi, que la vie ait été créée ainsi, d'avoir toujours cette ressource. Mais cela a fonctionné pour moi. Ce dialogue a été un grand cadeau. Puis-je seulement te poser quelques dernières questions? Réponse. Bien sûr. Question. Notre monde est-il vraiment en danger? Notre espèce flirte-t-elle avec l'autodestruction, avec une extinction véritable? Réponse. Oui. Et à moins d'envisager cette très réelle possibilité, vous ne pourrez l'éviter. Car ce à quoi vous résistez persiste. Seul ce dont vous prenez conscience peut disparaître. Rappelle-toi aussi mes propos sur le temps et les événements. Tous les événements que tu peux imaginer, en fait que tu as imaginé, se déroulent maintenant, dans l'éternel instant. C'est l'instant sacré. C'est l'instant qui précède ta prise de conscience. C'est ce qui se produit avant que la lumière arrive à toi. C'est l'instant présent envoyé à toi, créé par toi, avant même que tu le saches. Tu appelles cela le présent, et c'est un présent. C'est le cadeau le plus grandiose que Dieu t'ait offert. Tu as la capacité de déterminer laquelle, parmi toutes les expériences que tu as jamais imaginées, tu choisis de vivre, maintenant. Question. Tu l'as dit et je recommence maintenant à le comprendre, même dans les limites de ma perception. Rien de tout cela n'est réel, n'est-ce pas? Réponse. Non. Tu vis dans une illusion. C'est un grand spectacle de magie. Et tu fais semblant de ne pas connaître les trucs, même si tu es le magicien. Il est important pour toi de te rappeler cela, sinon tu rendras tout très réel. Question. Mais ce que je vois, sens et touche semble très réel. Si ce n'est pas cela, la réalité, qu'est-ce donc? Réponse. Garde à l'esprit que ce que tu regardes, tu ne le vois pas vraiment. Ton cerveau n'est pas la source de ton intelligence. Ce n'est qu'un processeur de données. Il absorbe des données par l'intermédiaire de récepteurs appelés sens. Il interprète cette énergie en formation selon ses données antérieures sur le sujet. Il te dit ce qu'il perçoit et non ce qui est vraiment. En te fondant sur ses perceptions, tu crois savoir la vérité sur une chose, alors qu'en fait, tu n'en connais pas la moitié. En réalité, tu crées la vérité que tu connais. Question. Y compris tout ce dialogue avec toi? Réponse. Assurément. Question. Je crains que cela ne serve d'argument à ceux qui affirment « Il ne parle pas à Dieu, il invente tout ça ». Réponse. Réponds-leur gentiment qu'ils pourraient essayer une autre réponse que celle qu'il faut cocher. Ils pensent « ou bien, ils pourraient tenter de penser « à la fois et ». Tu ne peux comprendre Dieu si tu réfléchis dans les limites actuelles de tes valeurs, de tes concepts et de ta pensée. Si tu veux y arriver, tu dois être prêt à accepter que tu as actuellement des données limitées, plutôt que d'affirmer que tu sais tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. J'attire ton attention sur les paroles de Werner Erhard, qui a déclaré que la véritable clarté ne peut venir que lorsque quelqu'un est prêt à remarquer « Il y a quelque chose que je ne connais pas, et le fait de le connaître pourrait tout changer. » Il est possible que tu sois à la fois en train de parler à Dieu et en train de tout inventer. En effet, voici la vérité la plus grandiose. Tu inventes tout. La vie est LE processus par lequel tout est en train d'être créé. Dieu est l'énergie pure, brute, que tu appelles la vie. Cette prise de conscience nous permet d'atteindre à une nouvelle vérité. Dieu est un processus. Question. N'as-tu pas affirmé que Dieu était un collectif, que Dieu est le tout? Réponse. C'est bien ce que j'ai dit. Et c'est ce qu'est Dieu. Dieu est aussi le processus par lequel tout est créé, et il fait l'expérience de lui-même. Je t'ai déjà révélé cela. Question. Oui, tu m'as donné cet élément de sagesse alors que j'écrivais un petit livre intitulé « Recreating Yourself ». Réponse. En effet. Et maintenant, je le répète ici, afin qu'un public beaucoup plus large puisse le recevoir. Dieu est un processus. Dieu n'est pas une personne, ni un endroit, ni une chose. Dieu est exactement ce que tu as toujours cru, sans comprendre. Question. Veux-tu répéter? Réponse. Tu as toujours cru que Dieu était l'être suprême. Question, oui. Réponse, et tu avais raison. C'est exactement ce que je suis, un être. Remarque qu'être n'est pas une chose, mais un processus. Je suis l'être suprême, c'est-à-dire le suprême être. Je ne suis pas le résultat d'un processus, je suis le processus même. Je suis le créateur et je suis le processus par lequel je suis créé. Tout ce que tu vois dans les cieux et sur la terre est moi, en train d'être créé. Le processus de création n'est jamais terminé. Il n'est jamais complet. Je n'ai jamais terminé. Autrement dit, tout est en changement perpétuel. Rien n'est arrêté. Rien. Rien n'est dépourvu de mouvement. Tout est énergie. En mouvement. Dans votre sténo terrestre, vous avez appelé cela emotion. Alors, c'est un jeu de mots en anglais. Emotion, motion étant le mouvement, et emotion, énergie en mouvement, ou émotion. Vous êtes la plus grande émotion de Dieu. Lorsque vous regardez une chose, vous ne regardez pas un objet statique qui est posé là, dans le temps et l'espace, non. Vous êtes témoin d'un événement. Car tout est en mouvement, en changement, en évolution. Tout. Richard Buckminster Fuller disait « J'ai l'impression d'être un verbe. » Et il avait raison. Dieu est un événement. Vous avez appelé cet événement la vie. La vie est un processus. Ce processus, on peut l'examiner attentivement, le connaître, le prédire. Plus vous observez, plus de connaissances vous avez et plus vous pouvez prédire. Question. C'est difficile à avaler pour moi. On m'a toujours enseigné que Dieu était l'inchangeable, la seule constante, celui qui bouge sans bouger. C'est dans cette impénétrable vérité absolue sur Dieu que j'ai trouvé ma vérité. Réponse, mais c'est la vérité. L'unique vérité inchangeable est la suivante. Dieu est toujours changeant. C'est la vérité et tu n'y peux rien. La seule chose qui ne change jamais, c'est que tout est toujours en changement. La vie est changement. Dieu est la vie. Par conséquent, Dieu est changement. Question. Mais je veux croire que l'unique chose qui ne change jamais est l'amour que Dieu nous porte. Réponse. Mon amour pour vous est toujours changeant, car vous êtes toujours changeant, et je vous adore tel que vous êtes. Pour que je vous aime tel que vous êtes, l'idée que je me fais de ce qui est digne d'amour doit changer tout comme l'idée que vous vous faites de qui vous êtes. Question. Tu veux dire que tu me trouves digne d'amour même si je décide que qui je suis est un meurtrier ? Réponse. Nous avons déjà fait le tour de cette question. Question. Je sais, mais je n'arrive pas à bien saisir. Réponse. Personne ne fait rien de mauvais, compte tenu de son modèle du monde. Je t'aime toujours, de toutes les manières. Tu ne pourrais être d'aucune façon qui m'inciterait à ne pas t'aimer. Question. Mais tu vas nous punir, non ? Tu vas nous punir avec amour. Tu vas nous envoyer au tourment éternel avec de l'amour dans ton cœur et la tristesse d'avoir dû le faire. Réponse. Non, je n'ai aucune tristesse, jamais, car je n'ai aucune obligation de faire quoi que ce soit qui m'y obligerait. Je ne vous punirai pas, bien que vous puissiez choisir de vous punir vous-même, dans cette vie ou dans une autre, jusqu'à ce que vous ne le fassiez plus. Je ne vous punirai pas, car je n'ai reçu ni tort ni blessure, et parce que vous ne pouvez blesser ni faire de tort à aucune partie de moi que vous êtes tous. L'un de vous peut choisir de se sentir blessé ou heurté, mais lorsqu'il retournera au royaume éternel, il verra qu'on ne lui a fait aucun tort. Ainsi, il pardonnera à ceux qu'il a imaginé lui faire du tort, car il aura compris le grand plan. Question. Et quel est ce grand plan ? Réponse. Te rappelles-tu la parabole de la petite âme et le soleil dans le tome 1 ? Question. Oui. Réponse. Cette parabole a une seconde moitié. La voici. Tu peux choisir d'être une partie de Dieu, n'importe laquelle, celle que tu veux. Ai-je dit à la petite âme, tu es l'absolue divinité qui fait l'expérience d'elle-même. De quel aspect de la divinité veux-tu maintenant faire l'expérience ? Tu veux dire que j'ai le choix ? Demanda la petite âme. Et j'ai répondu, oui, tu peux faire l'expérience de n'importe quel aspect de la divinité en toi, en tant que toi et par ton intermédiaire. D'accord, poursuivit la petite âme. Je choisis alors le pardon. Je veux faire l'expérience de moi-même en tant que cet aspect de Dieu appelé pardon complet. Alors, ça a créé un petit défi, comme tu peux l'imaginer. Il n'y avait personne à qui pardonner. Tout ce que j'ai créé est perfection et amour. Personne à qui pardonner ? Demanda la petite âme, quelque peu incrédule. Personne, répétai-je. Regarde autour de toi. Vois-tu des âmes moins parfaites, moins merveilleuses que toi ? Là-dessus, la petite âme se retourna et fut surprise de se voir entourée de toutes les âmes du ciel. Elles étaient venues des régions les plus éloignées du royaume, car elles avaient entendu dire que la petite âme avait une extraordinaire conversation avec Dieu. « Je n'en vois aucune qui soit moins parfaite que moi !» s'exclamait la petite âme. « À qui alors devrais-je pardonner ?» À ce moment même, une autre âme se détacha de la foule. « Tu peux me pardonner ?» dit cette âme sympathique. « D'avoir fait quoi ?» demanda la petite âme. « Je viendrai dans ta prochaine vie physique et ferai quelque chose que tu auras à me pardonner, » répondit l'âme sympathique. « Mais quoi ? Qu'est-ce qu'un être d'une lumière si parfaite comme toi pourrait faire pour que je veuille lui pardonner ?» voulut demander la petite âme. « Oh !» répondit l'âme sympathique en souriant, « je suis certaine que nous pourrons trouver quelque chose. »« Mais pourquoi ferais-tu cela ?» La petite âme ne pouvait imaginer pourquoi un être d'une telle perfection voudrait ralentir sa vibration au point de pouvoir faire quelque chose de mauvais. « C'est simple, » expliqua l'âme sympathique, « je le ferai parce que je t'aime. Tu veux faire l'expérience de toi-même en tant que pardon, n'est-ce pas ? Eh bien, tu as fait la même chose pour moi. »« Vraiment ?» demanda la petite âme. « Bien sûr !» Tu ne te rappelles pas ? Nous avons été tous là, toi et moi. Nous en avons été le haut et le bas, et la gauche et la droite. Nous en avons été l'ici et le là, et le maintenant et le alors. Nous avons été le grand et le petit, le mâle et la femelle, le bon et le mauvais. Nous avons été tous là. Et nous l'avons fait selon un accord pour que chacun de nous puisse faire l'expérience de soi en tant que la partie la plus grandiose de Dieu. Car nous avons compris que, faute de ce qui n'est pas, ce que tu es n'est pas. Faute de froid, tu ne peux avoir de chaleur. Faute de tristesse, tu ne peux te sentir heureux. Faute de mal, l'expérience que tu appelles bien ne peut exister. Si tu choisis d'être une chose, quelque chose ou quelqu'un de contraire à cela, tu dois apparaître quelque part dans ton univers pour rendre cela possible. L'âme sympathique expliqua alors que ces gens sont les anges spéciaux de Dieu et ces circonstances les cadeaux de Dieu. « Je ne demande qu'une chose en retour, » déclara l'âme sympathique. « n'importe quoi !» s'écria la petite âme. À présent, elle était excitée à l'idée de savoir qu'elle pourrait faire l'expérience de chaque aspect divin de Dieu. Elle comprenait le plan. « À l'instant où je te frappe et te châtie, » dit l'âme sympathique, « à l'instant où je te fais le pire que tu puisses imaginer, à ce même instant, rappelle-toi qui je suis vraiment. » « Oh, je n'oublierai pas, » promit la petite âme, « je te verrai dans la perfection dans laquelle je te tiens maintenant et me rappellerai qui tu es toujours. » Question. C'est une histoire extraordinaire, une parabole incroyable. Réponse. Et la promesse de la petite âme est la promesse que je te fais. Voilà ce qui ne change pas. Mais as-tu, ma petite âme, respecté cette promesse avec les autres ? Question. Non. Je me sens triste de reconnaître que non. Réponse. Ne sois pas triste. Sois heureux de remarquer ce qui est vrai. Et sois joyeux dans ta décision de vivre une nouvelle vérité. Car Dieu est une œuvre en cours, et toi aussi. Et rappelle-toi toujours ceci. Si tu te voyais comme Dieu te voit, tu sourirais beaucoup. Alors va, maintenant, et voyez-vous les uns les autres comme qui vous êtes vraiment. Observez, observez, observer. Je te l'ai dit, la différence majeure entre toi et les êtres hautement évolués, c'est que ces derniers observent davantage. Si tu veux augmenter la rapidité à laquelle tu évolues, cherche à observer davantage. Question. En soi, c'est une merveilleuse observation. Réponse. Et j'aimerais que tu observes à présent que toi aussi, tu es un événement. Tu es un être humain. Tu es un processus. Et tu es, à tout moment donné, le produit de ton processus. Tu es le créateur et le créé. Je te répète ces choses à maintes reprises dans ces quelques derniers moments de notre rencontre, afin que tu les entendes, que tu les comprennes. À présent, ce processus que nous sommes, toi et moi, est éternel. Il s'est toujours déroulé, se déroule sans cesse et se déroulera encore. Il n'a besoin d'aucune aide de ta part pour se dérouler. Il arrive automatiquement. Et lorsqu'il est laissé à lui-même, il se déroule à la perfection. Un autre proverbe a été inséré dans votre culture par Werner Erhard. Je cite « La vie se résout dans le processus de la vie même ». Certains mouvements spirituels l'expriment ainsi. Je cite « Abandonne-toi et le ciel t'aidera ». C'est une bonne façon de comprendre. Si tu abandonnes, tu te seras écarté de la voie. La voie est le processus appelé la vie même. Voilà pourquoi tous les maîtres ont dit « Je suis la vie et la voie ». Ils ont compris à la perfection ce que je viens de dire. Ils sont la vie et ils sont la voie, l'événement en cours, le processus. Tout ce que la sagesse exige de ta part, c'est de faire confiance au processus, c'est-à-dire faire confiance à Dieu, ou, si tu veux, à te faire confiance, puisque tu es Dieu. Rappelle-toi, nous ne faisons qu'un. Question. Comment puis-je faire confiance au processus lorsque le processus, la vie, m'apporte sans cesse des choses que je n'aime pas? Réponse. Aime les choses que la vie continue de t'apporter. Sache et comprends que c'est toi qui te les apporte à toi-même. Vois la perfection. Vois-la en tout, pas seulement dans les choses que tu qualifies de parfaites. Je t'ai soigneusement expliqué dans cette trilogie pourquoi les choses se produisent comme elles le font et comment. Tu n'as pas besoin de relire ces passages, bien que cela peut être utile de les relire souvent jusqu'à ce que tu les comprennes à fond. Question. S'il te plaît, seulement sur ce point, donne-moi un résumé, s'il te plaît. Comment puis-je voir la perfection de quelque chose qui, d'après mon expérience, n'est pas du tout parfait? Réponse. Personne ne peut créer ton expérience de quoi que ce soit. D'autres êtres peuvent co-créer les circonstances extérieures et les événements de la vie que vous vivrez en commun, et ils le font. Mais la seule chose que personne d'autre ne peut faire, c'est de t'amener à faire l'expérience de quoi que ce soit sans que tu ne l'aies choisi. En cela, tu es un être suprême, et personne, personne ne peut te dire comment être. Le monde peut te présenter des circonstances, mais toi seul décides du sens de ces circonstances. Rappelle-toi la vérité que je t'ai donnée il y a longtemps. Rien n'a d'importance.